VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. On commence par la Somalie. Un commando de Shebab a tué jeudi soir 7 personnes dans un restaurant situé sur une plage de Mogadiscio, 7 mois après une attaque similaire menée dans un établissement voisin. Au total, 9 personnes ont été tuées dans l'attaque, dont 2 assaillants. Shebab a déclaré aujourd'hui à l'AFP, le porte-parole de la ville de Mogadiscio. Comme à leur habitude, les Shebab ont revendiqué l'attentat sur le site internet de leur station radio andalouse, alors que l'attaque venait à peine de débuter. L'ONU a dénoncé dans un communiqué la négation du génocide rwandais de 1994 par un haut responsable politique burundais. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a déclaré le 16 août dernier que le génocide au Rwanda est un montage génocidaire contre le gouvernement Hutu de Kigali, donc une fabrication de la communauté internationale. Le conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention des génocides, Adama Dieng, appelle à l'apaisement.
Aujourd'hui, on assiste à des attaques, à des accusations, des contre-accusations entre Kigali et Bujumbura. Ne l'oublions pas, vous avez dans ces deux pays des communautés qui appartiennent au même groupe. Faisons en sorte tout simplement que demain, tout ce monde puisse vivre dans la paix. Enough is enough. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Parce que les populations souffrent. Ce sont avant tout les femmes, les enfants, bon sang. Parce qu'au fond, ce discours n'est qu'un discours négationniste du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, et au cours duquel des Hutus et des Tuas qui étaient opposés à ce génocide ont également été tués. Méfions-nous, parce qu'une étincelle pourrait provoquer justement un incendie cette région des Grands Lacs.
Adama Dieng des Nations Unies. Au Gabon, quelques 600 000 électeurs sont appelés demain aux urnes pour choisir leur président parmi 11 candidats, dont Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, qui a été très longtemps ministre d'Omar Bongo, le père de l'actuel président sortant. C'est la fin de la campagne électorale et de grands meetings sont prévus aujourd'hui à Libreville. Hier, beaucoup de Gabonais se sont pressés vers les gares routières pour quitter la capitale afin d'aller voter dans leur contrée d'origine. Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville, est allé à leur rencontre.
À la gare de PK9, quartier populaire de Libreville, beaucoup de Gabonais se pressent pour prendre le bus pour aller à l'intérieur du pays. Certains par crainte de violence et d'autres pour simplement aller accomplir leur devoir citoyen dans leur localité d'origine.
Moi, c'est Mambela Blondo Mindonga Malik. Je quitte Libreville parce que je dois aller voter. Je me suis fait inscrire à l'intérieur du pays, plus précisément à Les Bambas. Et je dois m'y rendre pour accomplir mon devoir de citoyen.
Est-ce que vous craignez qu'il y ait des violences à la proclamation des résultats?
Non, je ne crains rien parce que je sais que nous allons gagner. C'est vrai que j'ai un penchant pour un candidat. Et si nous en tenions à ce que le président Sorta disait sur les antennes de Vox Africa, il disait que s'il est battu, il va reconnaître sa victoire. Mais je sais qu'il sera battu, donc du coup, il n'y aura pas de violence et il va l'accepter.
Et vous pensez qui sera le vainqueur?
Monsieur Ping sera le vainqueur, je suis sûr. Monsieur Ping sera le futur président du Gabon.
Dans le camp adverse, c'est la même assurance. Les partisans d'Ali Bongo sont aussi certains de la victoire de leur porte-drapeau. Serge Miyakou.
Sûr et certain. C'est le meilleur et c'est le seul qui est sur le terrain pour mieux faire. C'est le seul que les Gabonais ont choisi et il va gagner.
Et pourquoi Ali Bongo alors?
Ali Bongo, comme je vous ai dit, c'est celui qui a le meilleur projet de société. Il a parlé de l'avenir en confiance. Alors donc on lui fait confiance et c'est tout.
Vous ne craignez pas des violences après publication des résultats?
Loin de là. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours ça. Les Gabonais sont fiers de choisir leur leader. Et après, tout le monde va s'asseoir et il n'y aura rien. Rien de grave va se passer.
Crainte de violence, oui. Mais ce n'est pas le souhait d'une bonne partie des Gabonais. Alain Matoka, rencontré à la gare de PK9.
Les gens sont souvent optimistes. Si le candidat lequel ils soutenaient a perdu, cela le révolte à faire du tapage. Mais s'il est conscient que le meilleur a gagné, il n'y aurait jamais de violence.
Et qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour le scrutin?
Je souhaite que le scrutin se passe dans la bonne manière.
Et comme la religion est très présente dans la vie des Gabonais, il y a aussi ceux qui s'en remettent à Dieu.
Moi, je m'appelle Kivi. Moi, je ne crains rien. Hein. J'ai confiance à Dieu. La Bible déclare que nul ne décide de personne. Hein. Seul Dieu a le dernier mot, celui qui décide.
Est-ce que vous comptez quitter Libreville?
Oui, en ce moment, là, j'attends le véhicule. Pour le sud, plus précisément à Les Bambas.
Et vous allez voter pour qui?
C'est un candidat, c'est quelque chose de personnel.
Depuis Libreville, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a entamé aujourd'hui à Genève une réunion avec son homologue russe Sergei Lavrov pour tenter de relancer les pourparlers de paix sur la Syrie. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, avait déclaré jeudi que la rencontre entre les deux hommes serait importante et aurait un impact certain sur les initiatives politiques de l'ONU en vue de relancer le processus politique en Syrie. La réunion de ce vendredi intervient alors que le conflit est devenu encore plus complexe avec l'intervention militaire de la Turquie dans le nord de la Syrie contre les djihadistes de l'État islamique, mais également contre les Kurdes. Le premier ministre turc Binali Yildirim a promis des représailles contre les auteurs de l'attentat à la voiture piégée ce vendredi dans la ville de Cizre, dans le sud-est. Selon l'agence de presse pro-gouvernementale Anadolu, l'attaque a été perpétrée par des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Le gouvernorat de la province de Cernak, où se situe Cizre, a annoncé que 11 policiers avaient été tués dans l'attentat et 78 personnes blessées, dont 75 policiers et 3 civils.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, la candidate démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump ont croisé le fer jeudi par meeting interposé, s'accusant notamment de racisme. Les électeurs ne doivent pas se laisser tromper par les efforts de Donald Trump en vue de changer la perception de sa campagne, a déclaré Hillary Clinton. Timothée Denanglai.
Selon elle, Trump est le premier candidat d'un parti majeur à attiser et encourager la haine. S'exprimant à Reno, dans le Nevada, la candidate démocrate a déclaré que le moment est venu pour les électeurs et les personnalités publiques de se lever et dénoncer les préjugés et la paranoïa véhiculée, dit-elle, par les discours de son adversaire républicain.
The paranoid fringe now calls itself alt-right, but the hate burns just as bright.
Hillary Clinton a fait état du soutien dont bénéficierait Donald Trump au sein de l'alt-right, la droite alternative, un courant conservateur associé aux efforts de l'extrême droite en vue de préserver l'identité blanche ou encore les valeurs occidentales. Madame Clinton a cité la présence aux côtés de Trump lors d'un meeting mercredi du Britannique Nigel Farage, cheville ouvrière de la campagne à succès pour le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Hillary Clinton a par ailleurs rejeté les allégations de Donald Trump et d'autres républicains selon lesquelles elle souffrirait d'un certain nombre de problèmes de santé.
Le séisme meurtrier qui a détruit mercredi plusieurs villages dans le centre de l'Italie a fait 267 morts et 387 blessés hospitalisés. Selon un nouveau bilan communiqué aujourd'hui par la protection civile italienne, les secouristes continuent à fouiller les décombres à la recherche d'éventuels survivants. Plus de 48 heures après le tremblement de terre de magnitude 6.0, le gouvernement a proclamé jeudi soir l'état d'urgence dans les régions touchées et débloqué une première enveloppe de 50 millions d'euros. Le président colombien Juan Manuel Santos a ordonné jeudi un cessez-le-feu définitif avec la guérilla des FARC en remettant au Parlement l'accord de paix conclu la veille et sur lequel les Colombiens seront appelés à se prononcer le 2 octobre. Les détails, John Lydon.
Ce conflit a fait au moins 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés. Le président Barack Obama et la candidate à sa succession Hillary Clinton ont salué cet accord. Le secrétaire général de l'ONU a quant à lui félicité les négociateurs, soulignant toutefois qu'un effort tout aussi déterminé et exemplaire va être nécessaire pour appliquer les accords. Pour que l'accord soit entériné par les électeurs le 2 octobre, il suffira que 13% votent oui et que le non recueille un score plus faible. Une fois l'accord signé et entériné, les guerrieros colombiens devront rendre les armes sous la vigilance des Nations Unies.
Le gouvernement philippin et la rébellion communiste ont convenu de prolonger indéfiniment la trêve décrétée en vue des pourparlers de paix qui doivent mettre fin à un conflit de près d'un demi-siècle, a annoncé dans un communiqué la diplomatie norvégienne qui joue un rôle d'intermédiaire. Le gouvernement communiste avait repris lundi à Oslo les négociations pour faire cesser l'une des plus anciennes insurrections d'Asie. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Et vous aurez avec vous Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi et bon week-end sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.